les jardinières.
Bonjour et bienvenue chez les jardinières. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à tous nos amateurs de jardinage.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy et propriétaire de Fabrice Rondet, paysagiste. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Durant une heure, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs, mais pas seulement, car ce matin, nous allons parler des arbres fruitiers et plus précisément de leur plantation. Non, c'était pas elle qui devait arriver, voilà.
Déjà en musique, ah bon, non, comme alors, ça.
Excusez-moi, je voulais mettre la petite jingle qui fait toujours 7h, 8h, les jardinières. Voilà. Avant de partir direction le verger, Fabrice, dites-nous, à part planter des fruitiers, parce que c'est la période, que faire au potager ces jours ?
Alors, dans notre jardin, autour de la maison, en ce moment, ce qu'on peut faire, c'est finir les récoltes des légumes. On a aussi les récoltes des fruits qu'on a bien attaquées depuis un certain temps. On a aussi le nettoyage, on a les feuilles qui tombent bien, on a le désherbage. On a toutes ces petites choses-là qu'on peut mettre en place pour avancer tout gentiment.
Merci beaucoup Fabrice. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur la plantation des arbres fruitiers, mais aussi sur tout ce qui concerne le jardinage. Vous pouvez composer le numéro que vous connaissez sûrement déjà par cœur, le 0900 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Vos messages sont également les bienvenus. Pour nous communiquer par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous l'envoyez au 939 et il vous reste également le formulaire toujours à votre disposition sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Et maintenant, place à la musique avec Angèle Tarène et on se retrouve juste après pour parler de la plantation des arbres fruitiers.
Les jardinières.
Vous avez un peu d'espace dans votre jardin, pourquoi ne pas planter des arbres fruitiers et surtout récolter et déguster ses propres fruits au pied de l'arbre est un bonheur incomparable. Fabrice, dites-nous, quand est-ce qu'on peut planter un arbre fruitier ?
La période la plus favorable, ce serait depuis maintenant. Donc on va commencer ce qui est en racine nue un tout petit peu plus tard, même d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. Et puis ça va aller jusqu'à fin mars, début avril. Et si c'est des plants qui sont en conteneur, on va aller même un petit peu plus loin jusqu'à mai, voire même plus loin dans la saison si le client s'en occupe bien au niveau de l'arrosage.
Mais pourquoi maintenant ?
Alors maintenant, on est déjà sorti des zones un petit peu stressantes, comme trop chaud, absence de pluie. Donc l'arrosage, on doit moins le gérer, ça se fait tout seul. On a un arbre qui va s'installer, c'est surtout ça qui nous intéresse. On a un arbre qui va s'installer tout tranquillement juste avant l'hiver pour redémarrer avec les températures de la terre qui augmentent et puis de l'air au printemps pour démarrer très rapidement. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est ce démarrage au printemps. Donc les plantations d'automne nous permettent d'installer les plantes et de mettre un ancrage en place et de se nourrir très vite.
Alors, on veut planter notre arbre maintenant. Qu'est-ce qu'on doit préparer pour accueillir ce fruitier dans les meilleures conditions ?
Alors, c'est son emplacement dans un premier temps. On va choisir un endroit qui soit ouvert par rapport à la lumière. Donc, on ne va pas le mettre à l'abri d'autres arbres. On ne va pas le mettre à l'abri d'un bâtiment. Donc, on va essayer de ne pas le mettre en situation nord-ouest aussi d'une parcelle. Après, on va essayer donc de trouver un emplacement aussi qui permette justement une accessibilité assez facile au niveau du travail quand il aura un développement adulte par rapport au passage des échelles, par rapport à des accès ou des encombrements. Et après, on va regarder aussi par rapport à la terre. Donc la terre, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Donc ça, c'est les premiers critères qu'on va retenir.
Et du coup, combien planter d'arbres ? Est-ce qu'on en plante qu'un seul ou est-ce qu'on peut les aligner les uns à côté des autres ? C'est quoi la meilleure façon de faire ?
Il n'y a pas de règle, parce que chacun va avoir des critères différents pour planter un arbre. Ce sera peut-être un arbre qu'il aura reçu pour, un mariage ou pour symboliser une naissance. Ça pourrait être juste pour remplir un espace. ce sera juste parce qu'il aime peut-être une variété bien particulière, ou alors ça peut être pour des raisons où c'est qu'on veut en tirer parti des fruits, où c'est qu'on veut faire de la conservation, c'est qu'on veut faire des jus de pomme ou des choses comme ça. Et là, on va tomber sur quelque chose de plus rentable au niveau des quantités. Après, on peut travailler aussi par rapport un étalage des productions dans la saison. On peut partir avec des productions qui vont commencer déjà sur l'été pour terminer plus tard, durant les mois d'octobre, novembre, sur la récolte des fruits, pour avoir un peu toujours des fruits frais, puis pas d'avoir que des variétés qui arrivent en même temps. Donc il y a tous ces critères-là qui peuvent rentrer en ligne de compte, et puis ça, ça va de pair avec la partie gourmande.
Justement, Fabrice, vous parlez de variétés. Est-ce qu'on peut, quand on plante des arbres fruitiers, les mélanger, ces variétés, ou est-ce qu'il faut plutôt mettre les pommiers dans un coin et les autres dans l'autre, par exemple ?
Alors non, il n'y a pas de règles non plus à ce niveau-là, sauf qu'il faudrait être attentif peut-être avec certaines variétés, mais plus principalement avec les cerisiers peut-être, qui ne sont pas tous auto-fertiles. Mais autrement, au niveau des autres variétés, on n'a pas trop de problèmes. Maintenant, après, chez nous, ça reste aussi un petit peu minimiser cet aspect-là des choses, parce qu'on est dans une situation quand même rurale où c'est qu'on a pratiquement tous des fruitiers, où il n'y en a pas très loin. Et puis avec la pollinisation qui se fait soit par les insectes, soit par le vent, ces critères de faire très attention à ça est très minimisé. Maintenant, au niveau du verger amateur, on n'a pas les mêmes critères que si on était dans des vergers professionnels, où c'est qu'on cherchait un rendement, et puis là où c'est qu'on est peut-être plus ciblé sur des variétés bien précises pour ce rendement, et puis peut-être là qu'on a besoin d'aide aussi d'une autre variété pour pouvoir arriver et obtenir des bons rendements.
Merci beaucoup Fabrice, et si vous avez des questions sur la plantation des arbres fruitiers, n'hésitez pas à nous les poser par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, espace et votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou bien via le formulaire qui est à disposition sur notre site.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Fabrice Rondet, nous parlons de la plantation des arbres fruitiers. Manque de place, peu de terrain ou terrasse à disposition, il est aussi possible d'avoir des fruitiers en pot. Mais Fabrice, dites-nous, tous les fruitiers, ne s'y plaisent pas.
Alors effectivement, maintenant on a des possibilités qui sont très différentes pour conduire nos fruitiers autour de la maison. On a la possibilité de travailler, comme on le faisait il y a quelques années, avec du haut de tige, qui sont des arbres à grande dimension, qui sont des hauteurs de tronc d'environ 1,70 m. On a du mitige 1,10 m. Et puis après, on a les nains qui font des hauteurs de tronc de 40-60 cm. Après, par rapport à ça, on a des variétés qui vont plus ou moins avec des vigueurs différentes. Mais après, quand on parle de production en pot, on est plutôt en général sur un sujet qui apparente une culture sur des attiques ou alors sur des terrasses, parce qu'on n'a pas de terrain. Après, si on peut éviter peut-être ça, c'est mieux. Ou alors utiliser vraiment des variétés avec des plantations, des choix qu'on va appeler des fruitiers colonnes. On aura des porte-greffes qui seront adaptés, avec des variétés aussi qui sont adaptées à ce développement des pots qui demandent moins de vigueur au niveau de la racine, qui auront un meilleur développement à travers les années à venir, et puis qui ne nous poseront pas de problème justement par rapport à un enracinement qui va tourner en rond dans les pots pour après provoquer des malformations, des nanifications, un petit peu le principe du bonsaï, où c'est que les choses se compromettent, parce que ça va avoir une interaction directe sur un déséquilibre de la plante, et après un problème aussi au niveau des feuilles qui seront moins grandes, des fruits qui sont moins grands aussi, et qui va donner aussi quelque chose peut-être de moins agréable en bouche au niveau de la valeur du fruit.
Vous pouvez juste nous citer 2-3 fruitiers qui se plaisent en pot ?
Alors, on a beaucoup de choses maintenant qui ont été développées à ce niveau-là. On a fait plusieurs essais avec des clients où c'est qu'on a utilisé de la poire, de la pomme, de la cerise, de l'abricot. On a utilisé aussi des prunes, et on a eu des surprises assez agréables de voir tous ces fruits avec ces nouvelles variétés qui sont adaptées pour ça, vraiment bien se comporter et bien démarrer. Donc tout ça c'est possible, mais on a juste une conduite qui est un tout petit peu différente au niveau de la taille. Et puis après, ce qui nous surprend surtout, c'est de tomber avec ces variétés qui sont différentes, qui sont nouvelles, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas tellement de recul ici par rapport aux variétés traditionnelles qu'on a dans nos jardins.
Une fois, l'achat du fruité effectué, Fabrice, est-ce qu'il faut le rempoter ? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils sur la taille du pot, le choix de la terre, éventuellement le compost ?
Alors après, ça dépend à chaque fois du fournisseur dans quel type de pot il va vous les vendre, parce que vous allez peut-être tomber sur des distributeurs assez importants qui vont peut-être vous fournir avec des pots très petits. Donc là, effectivement, il faudra le mettre dans des pots plus grands. Mais après, effectivement, si vous les gérez au niveau de la nourriture, au niveau de l'ancrage de la plante et puis au niveau de l'eau, quelque chose qui soit un peu confortable, ce serait bien d'avoir des pots, je pense en tout cas, de minimum 50-60 dans un départ sur 50-60 de profondeur. Ça, c'est vraiment un minimum pour après passer peut-être à des choses de 80 par 80 par 60 de profondeur pour permettre justement à la plante dans un premier temps d'avoir l'eau, d'avoir la nourriture. Ça, c'est aussi plus confortable par rapport au gel, parce que c'est un indice aussi qu'il ne faut pas oublier ça en hiver, qu'un pot peut geler plus rapidement, plus il est petit que s'il est plus grand. Après, en été, c'est pareil, il va se déshydrater, il va sécher jusqu'au cœur plus rapidement s'il est trop petit. Donc, plus il est grand, plus ce sera des atouts. Après, par rapport à ça, plus il est grand, plus il aura aussi, en plus de ses rétentions d'eau, de la nourriture à apporter et un développement aussi pour un enracinement favorable. Après, si ce pot aussi est important, il va avoir un meilleur ancrage pour la plante, ce qui va aussi permettre qu'il ne se renverse pas au premier coup de vent, surtout quand il va mettre les fruits où c'est que son centre de gravité va remonter. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'il ne faut pas perdre de vue.
Merci beaucoup Fabrice. Rapidement, dites-nous, ces arbres fruitiers, est-ce qu'il y a une bonne place pour mettre le pot ou on peut le déplacer au fil des saisons ?
On se rend compte rapidement que plus le pot sera grand, s'il est arrosé, plus il sera lourd. Donc peut-être qu'après on peut trouver aussi des astuces comme les mettre sur des petits chariots à roulettes pour le bouger à gauche, à droite, sur la terrasse si c'était nécessaire par rapport à son agencement. Et après, si on est sûr de ne pas devoir le bouger, on peut le poser directement à la bonne place. On peut se faire aider aussi par des moyens de transport avec des diables ou des choses comme ça. Mais effectivement, il faut bien y réfléchir avant parce qu'une fois que le pot est installé, en général, s'il est de grande dimension, c'est compliqué.
Les jardinières.
Deuxième partie de notre émission consacrée au jardinage. Ce matin, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy et propriétaire de Fabrice Rondet, paysagiste. C'est lui qui répond à vos questions jardinage.
Et les questions, on les attend par téléphone 0900 170 20 20. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou par le formulaire direction notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission. Question aux jardinières avec la possibilité d'y joindre une photo.
Et d'ailleurs, vous parliez de téléphone. Raphaël, vous en avez reçu, mais les gens un peu timides
ce matin.
Donc, vous avez pris soin de noter ces questions pour les poser directement à Fabrice.
Exactement. Et la première personne, elle nous a appelé de La Chaux-de-Fonds. C'était Pierre-André qui voulait rebondir un petit peu sur toute la partie arbre fruitier que l'on a fait en première partie de cette émission. Et il voulait savoir si en appartement, il était possible, Fabrice, d'avoir des petits arbres fruitiers.
Alors, oui, c'est possible, mais plutôt avec des plantes de type méditerranéenne. Donc, on va parler plutôt là de tout ce qui est agrumes. Mais je pense qu'après, pour développer correctement des pommiers, poiriers, c'est ça qu'il entend, s'il avait vraiment un vœu là-bas dessus, je pense que ça pourrait être peut-être un petit souci parce qu'on a besoin là quand même d'une partie repos végétative à partir de maintenant jusqu'au printemps où c'est qu'on doit baisser en température pour que la plante puisse se ressourcer pour redémarrer et après porter une nouvelle fructification. Tandis que si on part avec des plantes comme les agrumes où c'est qu'on a des floraisons, deux floraisons par année avec des fructifications étalonnées avec ces maturités de fruits qui vont gentiment sur toute la saison, là, ce sera beaucoup plus simple à gérer, donc avec succès. Mais après, il faudrait oublier, je pense, pour les variétés traditionnelles d'ici.
Très bien, merci beaucoup Fabrice, et je vous propose d'enchaîner avec la deuxième question qu'on a reçue par téléphone. C'est Marlise qui nous a appelé, elle a un Grafenstein qui a plus ou moins 20 ans, elle nous le dit, hein, il est magnifique, mais par contre, il ne donne absolument rien. Elle se pose beaucoup de questions parce qu'à côté, elle a des damascines et des pommes du Canada qui donnent plutôt pas mal de fruits. Alors elle se demande si la taille est mal faite et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce Grafenstein reprenne.
Alors, effectivement, elle a mis le doigt sur la réponse correcte, c'est la taille. En général, quand on a une plante qu'on taille beaucoup trop sévère, on compromet sa fructification. Donc, elle devrait, pour ça, pouvoir arriver à faire une lecture au niveau des yeux. On a des yeux qui sont à bois, des yeux qui sont à fruits. On devrait peut-être tailler moins sévère pour laisser justement ce bois, enfin ses yeux, se transformer et se mettre à fruits. Donc, on a des branches qui sont des gourmands qu'on va supprimer, mais après, on a toutes des petites branches qui sont latérales qui, elles, vont être gardées précieusement pour porter le fruit. Donc, il ne faudrait pas tailler et supprimer tout ça. Donc, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'elle prenne contact avec un professionnel qui puisse peut-être faire une taille avec elle, lui montrer, lui expliquer, montrer ce qu'on doit garder, ce qu'on doit supprimer. Puis après, il y a quelques règles bien précises. Je pense que son arbre, au bout de 20 ans, doit être à l'état adulte. Donc là, on va maintenir un volume. Et à partir de ce volume, on va chercher à conserver et à faire pour qu'il se construise pour porter que du fruit. Donc là, elle a besoin d'un coup de main pour y voir plus clair, oui.
Mais alors justement, elle me l'a précisé, hein, Marlise, c'est qu'elle a déjà un professionnel qui fait ça. Est-ce qu'il du coup, faudrait qu'elle change de professionnel?
Ben, je sais pas. Moi, je pense qu'il serait bien peut-être de mettre... en contradiction c'est peut-être ces théories de ce qui est pratiqué par la première personne, par une deuxième pour qu'elle puisse lui dire non effectivement là c'est taillé juste mais il y a un autre problème ou alors non c'est taillé faux puis il faudrait faire comme ça puis qu'elle lui explique et puis après elle prend sa décision si elle veut conserver avec la première personne ou la deuxième. C'est vrai que c'est un petit peu délicat tout ça, mais c'est vrai que moi je ferais comme ça, je demanderais l'avis d'une autre personne pour qui confirme ou qui l'infirme.
Ouais. Merci beaucoup Fabrice.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières avec vous encore un bon quart d'heure. On va prendre des questions reçues. La semaine dernière, en fin d'émission, nous avons reçu une image d'un auditeur, une image avec des pucerons, et il nous demandait comment traiter le puceron laniger du pommier. Alors on a une photo où on voit en macro tous ces petits pucerons, toutes ces petites tache blanche, on dirait un peu de la neige. Alors Fabrice, est-ce que vous avez une solution pour cette personne ?
Alors on a plusieurs techniques qui sont possibles. Donc on a la première technique qui est le traitement un petit peu que tout le monde a observé jusqu'à maintenant, c'est avec des produits issus de la chimie. Mais ça, il faudrait peut-être un petit peu oublier parce qu'en général, on est face à des insecticides d'un spectre d'efficacité très large, donc on tue un petit peu tout sur son passage. Donc ça serait un petit peu bien de mettre ça de côté. Mais autrement, on a des produits aussi qui sont plus spécifiques contre le puceron. Donc ça, ce serait déjà bien mieux. Après, on a la possibilité d'utiliser des savons noirs. Et puis, on a encore la possibilité éventuellement de mettre des petits hôtels à insectes pour développer, par exemple, des perce-oreilles, des coccinelles, des choses comme ça qui vont se nourrir justement de toutes ces petites larves de pucerons et puis qui vont diminuer fortement les colonies. Donc ça, c'est les différentes possibilités qu'on a. Et après, dans les produits, on a aussi des possibilités de travailler avec des produits bio. On a aussi la possibilité de mettre des purins en place. Donc en regardant un petit peu avec tout ça, ses convictions et puis son revendeur qu'on a à côté de chez soi, je pense qu'on peut faire un petit effort par rapport à la nature.
Merci beaucoup Fabrice. On enchaîne avec cette question reçue également cette semaine. J'ai ramené des graines de pin cet été et à ma grande surprise, ils ont germé quand je les ai mis dans la terre. Ça a poussé sur 3-4 cm formant comme de petits parasols renversés. Je leur ai donné un peu d'eau et surtout je leur ai mis une lampe pour plantes. Bref, beaucoup de soins et d'amour, mais actuellement mes 6-7 petits pins tombent les uns après les autres. Et notre auditeur tente de les maintenir debout avec des tuteurs. Comment éviter l'hécatombe, Fabrice, merci d'aider notre auditeur.
Alors là, ça me fait penser à tout simplement ce qu'on peut rencontrer aussi quand on fait ses propres semis pour le potager. Donc c'est qu'on a des plantes qui cherchent la lumière, qui filent comme on appelle ça. Et puis justement dans un premier temps, on a la plante qui s'allonge très très vite, qui ne peut plus se supporter, qui tombe et puis après qui pourrit. Donc ça peut être lié aussi peut-être à un excès d'humidité et puis on a quelque chose à ce niveau-là aussi qui va dégrader très rapidement le petit plantule. Je pense que c'est une de ces deux choses-là. Après, ce qu'il faudrait faire, justement, c'est peut-être essayer de sortir la plante quand elle l'a fait germer pour la mettre dans des conditions moins chaudes, avec plus de lumière naturelle, donc peut-être sous un abri extérieur ou quelque chose comme ça pour un petit peu, comme on appelle ça, les durcir. Donc on aura des plantes plus courtes et plus trapues et on a un développement qui va se faire beaucoup plus normalement, comme ça se fait dans la nature tout seul.
Merci beaucoup Fabrice d'aider cette personne et ses pins. Nous avons reçu une photo d'un cognassier de Marie-Thérèse de Savagnier qui nous dit: notre cognassier, qui a une dizaine d'années et mesure environ 3-4 mètres de haut, était très chargé en coin. Il s'est incliné avec le vent fort qui a soufflé en début de semaine. Nous avons cueilli les coins. Elle se demande maintenant si elle peut le redresser, et si oui, quand et comment. Alors on voit ce coin, c'est vrai qu'il est plutôt penché. Bon, il y a un mur juste derrière aussi, ça n'aide pas la chose. Fabrice, à vous la parole.
Alors, déjà ce qui se passe, je pense, avec le mur, c'est que ce mur doit probablement avoir une fondation qui empêche justement l'arbre d'avoir un système racinaire qui se développe du côté du mur. Donc on voit très bien que la plante, bien sûr, tombe face à ce mur, enfin de l'autre côté, à son opposé. Donc ça veut dire que la plante n'a pas un amarrage du côté du mur et tout le poids l'emmène de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu logique. Après, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait peut-être le tailler pour réduire sa couronne, pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus équilibré, qui puisse soutenir son poids. Et après, pour l'amarrer, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement mettre une fixation dans le mur et retirer cette plante en l'attachant à cette fixation pour combler ce manque de développement de racines.
7h, 8h, les jardinières.
Les dernières minutes des jardinières, mais avant de se quitter, Raphaël, vous avez un auditeur en ligne.
Exactement, c'est Pierre qui a une question pour Fabrice Rondet. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Votre question à notre professionnel.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
Bonjour Pierre.
J'ai planté, il y a environ une année, des Japonica Genpi, Spirella. Et puis j'aimerais savoir quand c'est la meilleure période pour les tailler.
Alors on va leur faire ça en période de repos de végétation pour la plupart des végétaux, c'est ce qu'on fait. Et puis donc c'est-à-dire qu'on peut attaquer ça maintenant et puis y aller jusqu'à avril, grosso modo.
Ah
ouais. Donc okay. Après vous pouvez le faire aussi un petit peu dans la saison, faire ce qu'on appelle une taille en verre si vous voulez les conserver dans une forme, dans un volume assez précis. Et puis ça, vous faites des tailles légères, vous faites des pincements, c'est que vous revenez un petit peu en arrière d'une façon régulière, mais ça c'est des petites coupes, c'est pas très, très sévère. Mais si vous voulez faire une taille de formation avec un éclaircissage pour sélectionner des branches pour bien le construire, ça ce serait plutôt un repos de végétation comme maintenant.
Donc à partir de maintenant, donc jusqu'à côté, en plein air, au printemps, quoi.
Voilà, exactement. Juste avant le démarrage de nouveau des végétaux, oui, exactement.
On peut les laisser pousser jusqu'à à peu près quelle hauteur, ces petits arbustes?
Si vous faites une taille, comme sur toutes les plantes, dès leur jeune âge, vous pouvez limiter leur croissance d'une façon assez drastique. Vous avez par exemple des haies de laurier ou de charme ou de hêtre que vous pouvez voir à gauche, à droite, où c'est qu'on a des plantes qui sont incontrôlables, elles font 2 mètres de large, elles font 4 mètres de haut. Puis par contre, vous allez voir chez des personnes des haies qui font 50-60 cm de largeur, 1,20 m, 1,50 m de hauteur, mais parce qu'elles sont tenues d'une façon très régulière et puis elles n'en souffrent pas. Donc après, c'est par rapport à la régularité de ce que vous allez faire que ça va être facile à conduire.
Oui, d'accord. Donc, environ 80 cm, on peut les tenir, environ, je pense.
Sans trop de problèmes. Ouais.
Ok.
Merci.
Oh, merci beaucoup.
Bonne merci journée. À vous. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir à tous.
Fabrice, rapidement, avant de se quitter, on va prendre encore cette question de Jeanne de Delémont qui aimerait tailler ses lauriers roses et blancs qui sont devenus trop grands. Elle demande si je rabats à 30 cm le tout, refleuront-ils les années suivantes ? Merci pour votre réponse. Alors dites-nous rapidement, Fabrice, que doit-elle faire ?
Alors, les rabattes à 30 cm, quand elle dit trop grand, je ne sais pas si ces plantes, elles font 1m20, 1m50 de hauteur, rabattes à 30 cm, ça sera assez sévère, donc refleurir l'année prochaine, en tout cas pas. Mais après, elles vont refaire des branches porteuses pour les fleurs. Mais après, si c'est une plante qui fait 40-50 cm, puis qu'elle les rabat à 30, on devrait pouvoir revoir une floraison peut-être déjà l'année prochaine quand même, parce que la taille ne sera pas si sévère que ça. Ça dépend tout de l'état actuel de la plante.
Est-ce qu'il y a une mesure, par exemple si ces plantes sont grandes, elles coupent à temps et sinon plus petites ?
Non, c'est comme pour tous les végétaux, plus vous attendez, plus le retour en arrière est sévère, plus après ça peut compromettre après un regarnissement de la plante ou alors pour une floraison ou pour du fruit. Donc l'idéal c'est de faire une taille annuelle et puis comme ça bah, vous tenez un volume, une hauteur facilement et vous avez comme ça une plante qui va fleurir chaque année et puis qui va fructifier aussi chaque année sans pour autant porter préjudice à son développement.
Merci beaucoup Fabrice, il est quasi l'heure de se quitter. Nous sommes le 10 octobre, la pluie et le vent nous ont gâtés ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ce week-end ?
On va continuer peut-être de s'occuper de ces fruitiers pour les prochains jours, du potager également. On va apporter les derniers soins au gazon pour ce qu'il y aurait encore à faire par rapport au stress qu'ils ont subi cet été. On va commencer de ramasser les fruits aussi qui sont gâtés, qui sont tombés pour les mettre au compost. On va profiter aussi d'évacuer toutes les feuilles malades de chez soi pour pas qu'elles recontaminent la saison prochaine les nouvelles plantations. Et puis après, ben, on peut commencer gentiment de repenser à la plantation, comme on en a discuté aujourd'hui, mais de tout ce qui est parterre fleuri, de tout ce qui est arbustif, décoratif, ou alors petits fruits, fruitiers, et même planter peut-être encore quelques choses pour le printemps, qui sont plus pour le potager, comme des choses de printemps, d'hiver.
Merci beaucoup Fabrice pour toutes vos réponses ce matin. On rappelle que vous êtes paysagiste à Porrentruy et propriétaire de Fabrice Rondet Paysagiste. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à tout bientôt.
Bon week-end à vous, merci.
Merci
au revoir.
Fabrice. La semaine prochaine, c'est Tom le jardinier qui répondra à vos questions dès 7h. Et nous parlerons, entre autres, de conservation de légumes et de fruits. Passez un bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et à la semaine prochaine, prenez soin de vous.
7h, 8h. Les jardinières.